France Inter. Les plans sont faits pour ne pas être respecté. Quand j'étais petite, je voulais 6 enfants et le premier à 27 ans. Avec un homme, oui, pourquoi pas, la question ne se posait même pas. J'ai eu l'aîné à 40 ans et je l'ai fait par PMA. Un enfant seul, mais ça va pas, il faut un père, qu'est-ce que tu crois? Je crois que j'étais au bon endroit, j'avais le choix et je l'ai fait. Pire, je l'ai jamais regretté. Les plans sont faits pour ne pas être respecté. Le plan, c'est simple, les enfants, ils sont blonds, ils sont blancs. À 2 mois, ils font tous leur nuit et à 18, ils ont le permis. Et alors nous, évidemment, on est contents d'être leurs parents, on adore ça, on remet ça, même pas flipper. Pas fatigué. Et on oublie que les plans sont faits, souvent pour être défoncés. À la marge, on le sait, la marge des enfants cabossés, bizarres, chelous, accidentés, celle des maternités zébrées, l'endroit où on ne veut pas aller, la route où rien n'est balisé, la perspective y est plus floue, l'horizon peut paraître fou, on veut prendre ses jambes à son cou et puis on se dit qu'après tout, ici on va nous foutre la paix, ici tout est à inventer, c'est à la marge que l'on crée, parfois on se plante, mais on essaie, on cherche, on tente et on jubile. Un jour ça y est, on a trouvé ça. Ça s'appelle la liberté du singulier.
En marge. Julia Foïs sur France Inter.
Bonjour, signora. Maria Montessori.
C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça.
C'est vous qui vous en occupez?
Non.
C'est un institut pédagogique ici, pas un orphelinat.
Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas.
Bravo. Apprenez-la alors.
Non, non, non.
È un'educazione piena d'amore, quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio.
Je m'appelle Tina.
Bonsoir et bienvenue, Léa Todorov.
Bonsoir.
Ce qu'on entend là, c'est la bande-annonce de votre tout premier film de fiction, La Nouvelle Femme, l'histoire d'une rencontre entre Maria Montessori et Lily, cocotte parisienne du début du siècle dernier. Les actrices Jasmine Trinca et Leila Bekti sont incroyables. Leurs personnages le sont tout autant de force, d'audace, de liberté. Que les femmes apprennent enfin à dire « je », c'est ça aussi le sujet du film?
Ouais, complètement, même si je vois que moi j'ai beaucoup de mal à le faire encore. Je passe mon temps à dire « on » quand je parle du film, parce que c'est une expérience collective. Et hier, une amie me disait « dis donc, en entendant ton discours de remerciement à l'avant-première, faudrait que toi aussi que t'arrives à dire « je
». C'est un film politique en ce sens, c'est un film féministe, c'est un film sur l'émancipation des femmes.
C'est un film sur une femme qui a été très profondément féministe, qui est pas très connue, Maria Montessori, et le fait de la mettre en parallèle avec une autre femme qui incarne un féminisme aussi beaucoup plus finalement ludique, qu'est Lily Dallangy. Oui, je trouve que c'est une manière de mettre à l'honneur des pionnières du féminisme à l'aube du XXe siècle.
Alors si Maria Montessori se libère, c'est aussi pour libérer l'enfance, en tout cas c'est ce qu'elle dit, parce que les enfants aussi sont piégés dans leurs conditions.
Complètement. Et je l'ai compris peut-être encore plus après avoir fini le film et avoir découvert l'œuvre de Alice Miller, qui est une psychologue suisse d'origine polonaise et qui montre très bien en quoi l'enfance a été coincée par les principes de la pédagogie noire dans laquelle...
Pédagogie noire?
La pédagogie noire, c'est finalement tous les principes qui se retrouvent dans les manuels d'éducation du 19e siècle et qui considèrent que l'enfant est fait pour être dressé pour le voilà, où il faut juste exercer son autorité sur lui pour le faire rentrer dans le moule. Et en fait, Maria Montessori, c'est clairement contre ça qu'elle s'est aussi battue.
Pour les enfants valides et pour les enfants non valides plus encore, parce que ceux-là aussi, on va encore plus les faire rentrer dans un moule et les mettre de côté.
On cherche surtout à les oublier et à ne pas les regarder. Et je pense que ça, c'était le cas hier comme aujourd'hui, que ceux qui nous dérangent, ceux qui sont pas réparables dans une société qui voudrait que tout rentre dans la norme.
La maternité et son immense pouvoir, l'immense pouvoir de l'amour maternel est au cœur de votre film, où l'on voit d'ailleurs votre fille et votre mère, hein, je crois.
C'est ça.
À l'image. Pourquoi vouliez-vous les filmer toutes les deux?
Ma mère, c'est drôle parce que c'était un choix au début très prosaïque de se dire je cherche une actrice avec un petit accent anglo-saxon. On est encore dans une période post-Covid où les trajets sont extrêmement compliqués. On a un budget limité pour engager une grande comédienne anglaise ou américaine. Et puis tout d'un coup, j'ai cette illumination de me dire en fait, je peux proposer ce film à ma mère qui est canadienne, qui a gardé son accent, qui avait déjà joué un peu dans un film, qui adore aussi le spectacle. Donc qui était extrêmement tout de suite partante, et puis finalement après coup de se dire ça a quand même beaucoup de sens. Mon personnage s'appelait Betsy, elle s'appelle Nancy, c'est quelqu'un qui a eu un grand engagement féministe dans les années 70, et je suis sa fille, donc je trouve que c'est drôle les tours que nous joue l'inconscient.
Voilà, derrière la logistique il y a des raisons peut-être un peu plus
c'est ça,
un peu plus profondes. Quant à la présence de votre fille Sophia,
elle avait 4 ans et demi au moment du tournage, donc je pouvais pas lui donner finalement un grand rôle dans le film comme je l'ai fait avec beaucoup d'autres enfants, mais je trouvais ça indispensable qu'elle soit là puisque le film trouve son point de départ dans sa naissance.
Parce que, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Parce que quand Sophia naît, elle ça va pas. J'accouche par césarienne et je suis en salle de réveil et je suis inquiète. Et quand le médecin arrive avec le père de Sophia, il tire une tête pas possible et le père de Sophia me dit elle est mouchie, ce qui dans notre vocabulaire familial veut dire un peu raté quoi, là il y a quelque
D'accord.
chose qui va pas quoi.
Oui.
Et effectivement elle est diagnostiquée 6 semaines plus tard avec une maladie génétique qui s'appelle SLO et qui ancre tout d'un coup le point de départ pour nous d'un parcours auquel on s'attendait pas du tout et pour moi d'une maternité très différente de celle que je m'étais imaginée.
Alors une main tendue à Sophia et l'autre à votre mère Nancy, et au milieu de l'une à l'autre il y a vous dans ce miroir Léa Todorov, prenez-le s'il vous plaît, prenez le temps de vous regarder, dites-nous que voyez-vous, qui voyez-vous quand vous vous regardez?
Alors je vois ma version fatiguée, les yeux un peu gonflés par l'émotion de ces derniers jours, la sortie du film qui est pour moi l'aboutissement d'un grand travail et tout d'un parcours de vie, quoi, vraiment. J'ai des yeux bleus, mais là, on le voit pas trop parce qu'il fait sombre.
On les voit bien. Il y a de très jolies scènes de danse dans votre film, comme le corps qui se libère. Lui aussi. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec votre corps, avec votre visage, votre reflet, votre féminin? Ce que vous voulez, je dirais, l'enveloppe.
J'ai l'impression dans l'enfance d'avoir eu beaucoup, beaucoup de complexes, en tout cas, et d'avoir eu beaucoup de mal à accepter mon image de moi. Je trouvais mes oreilles décollées et mon nez trop grand, et j'espérais qu'un jour tout serait recollé par la magie d'une chirurgie réparatrice. Heureusement, il n'en a rien été. Et la danse, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à me réapproprier mon corps. Et entre autres, tout ce qui est danse libre, que ça soit le gaga ou ce qu'on appelle la danse extatique, c'est des danses qui amènent à ressentir pleinement les sensations de son corps sans être dans le mimétisme d'une chorégraphie ou la nécessité de faire bien. Et j'ai grâce à tout ça gagné comme ça un grand plaisir à danser et je l'ai fait énormément pendant tout le tournage, que ça soit pour travailler avec les enfants à la danse, mais juste par joie aussi le reste du temps.
Léa Todorov, l'intime sera plus que jamais politique avec vous ce soir en marge de l'enfance, en marge de la maternité. Ce sont vos pas qu'on emprunte avec Bastien Lallemand pour nous accompagner.
Pas à pas, quand je te suis dans l'ombre, j'avance comme une ombre, me mélangeant. Autres ombres, tu n'y vois que du feu, je m'approche pourtant si près de toi, à te toucher du doigt, mais la foule. de te suivre. Tu me remarqueras, j'émergerai des eaux profondes et tu viendras te blottir dans mes bras et j'entendrai enfin le doux son de ta voix quand la foule.
Bastien Lallemand sur France Inter avec ce titre, l'anonymat, le non-anonymat en ce qui vous concerne aussi, Léa Todorov. De ça aussi et de ses parents singuliers que vous avez eu, on va parler ce soir un petit peu. Mère de Sophia, fille de Nancy, la nouvelle femme, c'est le titre de votre film. Et oui, ça pourrait être vous.
France Inter, En Marge.
The way you wear your hat, the way you sip your tea.
On pourrait être où là, dans une campagne où on entendrait comme ça la nature si vive à nos oreilles avec Ella et Louis en fond sonore.
Dans ma maison,
ouais.
Du Berry,
ouais.
Qui est une maison que mon père a achetée il y a 50 ans, dont son envie de reproduire la maison de ses parents à côté de Sophia,
ouais.
Qui était la maison
de Sophia, pas votre fille, mais Sophia, la ville en Bulgarie.
En l'honneur de laquelle,
ouais.
Blabla.
Oui. Et la boucle se reboucle.
C'est ça. Et il avait passé, tous les week-ends d'été et tous les vacances d'été dans cette maison, à côté de Sophia. Et il avait eu envie de reproduire un cadre de vie similaire pour lui et sa famille. Donc, un peu dans le principe de trouver des racines aux déracinés. Mmh. Et ça a marché.
Votre enfance, nous avez-vous dit en préparant cette émission, à la saveur du silence, le goût du pain azyme trempé dans de l'eau. En rentrant de l'école, toujours vous retrouvez votre père, il est là, il a bossé à la maison, il a écrit, il a cherché, peut-être trouvé, mais là, il vous écoute, vous. On se parle de Tsvetan Todorov, quand même un grand sémiologue, grand historien des idées, essayiste, critique littéraire, mais donc votre père. Qui était-il comme papa ?
Un papa poule,
ouais.
Extrêmement maternel, extrêmement dévoué à sa famille et à ses enfants, adorant être là avec nous jour après jour, à tel point que quand j'ai eu un enfant, j'ai quand même été un peu étonnée à quel point il nous avait peu fait peser le poids de la parentalité, l'exaspération ou la fatigue qu'on peut susciter en tant qu'enfant et qu'on ressent en tant que parent vis-à-vis de ces charges, parce que je pense qu'il prenait comme ça, dans sa philosophie et dans sa vie quotidienne, un plaisir du quotidien. Et donc il érigeait ça en rang de vraie valeur. C'est-à-dire que c'était très loin de l'image qu'on a des intellectuels enfermés dans le monde des idées. C'était quelqu'un qui aimait aussi changer les couches, préparer de la cuisine bulgare, bricoler énormément. Tous les meubles, les étagères chez mon frère et moi sont encore des preuves de ses talents de limités, mais certes quand même existants, de menuisier. Et donc c'était quelqu'un, voilà, qui incarnait quelque part dans sa vie ce qui l'animait intellectuellement. Moi, c'était mon plus grand confident, enfin ouais. Pas forcément dans l'intimité, voilà, comme ça, mais dans l'échange et l'encouragement de chaque journée. Je sais que quand il est décédé en février 2017, ce qui était extrêmement bizarre pour moi, c'était après de ne plus pouvoir l'appeler, parce que finalement c'est quelqu'un que j'appelais tout le temps pour lui raconter ma vie, comme je le faisais depuis que j'étais petite, où je lui racontais ma journée d'école. Et il pouvait ne pas être encourageant, il n'était pas parfait. Enfin, je veux pas du tout ici lui dresser le piédestal que personne ne mérite. Mais par contre, il était toujours à l'écoute et à un bon endroit, je pense, de parents aussi, c'est-à-dire capable d'entendre et de pas étouffer de ses commentaires finalement la parole qui s'exprime. Et voilà. Et en fait, derrière, il se faisait énormément de soucis pour moi, pour nous, ses enfants, comme un père très concerné. Il en perdait régulièrement le sommeil, à s'inquiéter de comment on allait gagner notre vie et s'inscrire dans le monde qui était le nôtre. Mais c'était pas une inquiétude qui faisait peser sur nous.
Votre mère, elle, c'est l'écrivaine Nancy Houston, figure de la littérature, et en privé, une mère-enfant, dites-vous.
Je dis ça parce que je pense que c'est une mère qui, elle le dit aussi elle-même, elle a vécu comme ça un grand traumatisme dans l'enfance avec des abandons un peu successifs, mais entre autres l'abandon de sa propre mère qui est partie quand elle était enfant. Et elle a toujours exprimé le fait que ça l'avait à un endroit, comme c'est le cas pour les traumatismes, coincés dans le ressenti émotionnel d'un enfant. Mmh. Et c'était, je pense, pour le meilleur et pour le pire. Donc, pour le meilleur, parce que c'est quelqu'un qui retrouve sans grande difficulté son être enfant et qui donc adore, de ce point de vue-là, les enfants... voilà, de 3 à 10 dans leur fantaisie, leur joie, et qui est capable de rentrer dans leur imaginaire ou de leur en proposer un comme ça. Et puis ensuite, forcément, une mère-enfant, c'est-à-dire quelqu'un avec qui parfois c'est difficile de communiquer parce que l'affect est très important.
Alors bien sûr, vous, au milieu de ces deux-là, vous lisez et beaucoup et tôt, vous parlez aussi beaucoup et tôt, et même parfois toute seule en pleine rue. Au mur de votre chambre, un portrait de femme bulgare, Roald Dahl sur votre table de chevet, dans le poste de télé, les grands classiques du cinéma, à commencer par la seule, l'unique, Mary Poppins, pour vous servir.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you're always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
C'est une usine à rêve, hein, ce film. À quoi rêviez-vous, petite Léa Todorov, qu'est-ce que vous imaginiez de ce que vous deviendriez, de ce que vous feriez de votre vie plus tard ?
Ma première ambition, c'était quand même de gagner de l'argent, ce qui est drôle venant de cette famille intellectuelle. Je voulais vendre du pétrole parce qu'on était en plein dans la crise pétrolière des années 90 et je me disais que ça avait l'air d'être un métier d'avenir.
Oui, c'est ce qu'on disait, donc les plans sont faits pour ne pas être respectés, c'est à peu près ça.
Ouais, j'en suis assez loin. Ensuite, j'aimais la fantaisie, mais je pense que écrire, j'ai toujours adoré voilà l'écriture imaginative, mais je me projetais pas du tout dans un métier similaire à celui de mes parents.
Et c'est-à-dire qu'ils ont mis la barre un peu haute quand même, donc il fallait mieux prendre une tangente.
C'est ça. Oui. Et c'était pour moi les sciences.
C'est ça.
Ouais, j'ai investi d'abord
un domaine dans lequel au moins il n'était pas, vous n'avez pas foutu un pied, donc il était pour vous, quoi. Ouais. Alors à votre doudou Lapinou, vous promettez de ne jamais manger de lapin, promesse tenue. Au garçon de l'école, vous promettez surtout des baffes s'il vous traite mal. Vous étiez bagarreuse.
Ah oui, j'étais très bagarreuse.
C'est vrai.
Ouais. Oui, parce que je trouvais qu'il fallait. Enfin, je pense que j'avais envie d'être des deux côtés, du côté des filles, mais aussi du côté des garçons. Et donc, ça passait par quelque chose de physique et effectivement.
Qu'est-ce qui vous attirait du côté des garçons?
Bah, j'avais quand même l'impression, donc moi j'ai grandi dans les années 80-90, que c'était là que se passait ce qui était intéressant dans le monde. Mmh. Que c'était aux garçons qu'il fallait faire concurrence, les garçons qu'il fallait battre. Je jouais au foot de manière extrêmement agressive, ce que je continue de faire. Je donne systématiquement des coups de pied dans les talons et dans les chevilles. voilà, j'avais vraiment une espèce de volonté d'en découdre. Mmh. Avec ça, je voulais pas rester coincée dans le rôle que je devais avoir le sentiment qu'on donnait aux filles. Donc je faisais tout pour en sortir jusqu'à me battre avec beaucoup de hargne et de fierté à un endroit.
Les filles sont vos copines, les garçons vos rivaux. Tous ensemble, vous grandissez aussi devant la télé, nourris par vos séries américaines préférées. Il y aura Sauvé par le Gong, il y aura Beverly Hills et puis bien sûr, ceci. Que vous dit Friends de l'amitié, de l'amour, de ce qui vous attend à l'âge adulte? Quel modèle est-ce que ça propose pour vous?
Je pense qu'il place l'amitié au centre des relations d'adultes, puisque c'est ces espèces d'éternels adolescents qui continuent de se retrouver tous les jours entre amis et se raconter leur vie. Et je dois dire que là, maintenant, à un petit peu plus de 40 ans, je suis assez d'accord avec cette valeur-là. Les amis avec qui je regardais Friends, on est toujours amis et on regarde toujours le monde ensemble.
Et alors, l'amour, le
ça
désir...
Ça dure plus longtemps, quoi.
Ouais, c'est pas faux. Prennent quelle place quand vous êtes ado dans votre vie?
Énorme.
Ouais.
Mais de manière aussi extrêmement fantasmée, c'est-à-dire que je rêve des histoires que j'arrive absolument pas à avoir dans la vraie vie, et je les écris plus fleur bleue les unes que les autres, tous les soirs en m'endormant, je rejoue des scénarios de ce qui devrait advenir dans une vie que j'oserais, si j'osais la vivre.
Parce que le fantasme, c'est toujours mieux que le réel?
En tout cas, on y est moins blessé et puis on y joue tous les rôles, donc c'est facile de projeter ses désirs. Donc c'est sûr que dans mon adolescence, ça occupe une place énorme.
Mais vous voilà en terminale et vous voilà amoureuse, cette fois-ci dans la vraie vie, du petit copain de votre meilleure amie, le genre d'histoire avec un gros, gros sens interdit, mais vous y allez quand même. Dans quoi est-ce que vous mettez le pied ?
C'était même à la fin de ma première, et c'était une relation évidemment complètement interdite, puisque c'était quelqu'un, mon ami, dont j'étais extrêmement proche, et non seulement je la perdais elle, mais je jetais sur moi l'opprobre de tout le lycée à l'époque. Je pense que c'est une relation qui m'a tellement traumatisée que je passerai sûrement ma vie à me demander pourquoi je suis rentrée là-dedans et qu'est-ce qui s'est passé, mais qui était la relation la plus violente et la plus toxique qui m'ait été donnée de vivre. Et c'est 4 années de rupture, de coups, de hurlements, de violences sexuelles qui se mettent en place.
Et vous en prenez conscience quand? Pas sur le moment. En général, on ne se rend pas compte vraiment de ce qu'on subit. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on nomme pas. Quand est-ce que vous apprenez à dire violences sexuelles, relations toxiques?
Alors, je dirais que sur le moment, je fais preuve d'une absolue dissociation. Donc, je raconte toujours à mes amis un grand sourire aux lèvres l'horreur par laquelle je suis passée la veille. Donc, c'est tout le monde me dit « Ah, mais ça a l'air de pas du tout t'affecter. » Voilà, donc, comment on arrive à raconter les choses comme ça. Et ensuite, c'est d'abord le fait d'avoir le besoin, à chaque fois que je rencontre un nouveau garçon et que je commence une histoire d'amour, de dire « Pardon, en fait, je suis traumatisée. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que je répète au fur et à mesure des années. Mais ensuite, je pense que je fais vraiment partie des femmes qui ont bénéficié de la libération de la parole de ces dernières années.
De MeToo, vous voulez dire ?
De MeToo, je veux dire, et jusqu'à Judith Godrèche récemment. Enfin, c'est quelque chose qui à chaque fois permet de relire ce par quoi on est passé et en comprendre les ressorts plus profonds. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu me re-raconter ce qui était arrivé sans, voilà, ensuite ce qui est compliqué c'est qu'on voit aussi sa propre responsabilité là-dedans, enfin il y a, c'est dans les relations toxiques, on se sent aussi toujours coupable d'avoir servi la pâtée, quoi.
Vous parvenez à vous en libérer 4 ans plus tard en Laponie. Au cours d'un voyage en Laponie, ça le rend fou que vous vouliez partir. Mais vous tenez bon, vous partez, vous avez 20 ans, vous êtes entré à Sciences Po, votre billet pour l'âge adulte, vous l'avez. Les amarres, ça y est, vous les larguez. Erasmus à Vienne et Grand Master Flash en cadeau d'anniversaire. Qui êtes-vous à 20 ans, Léa Todorov ?
Je deviens française pour la première fois, puisque je, en vivant à l'étranger, ouais, je suis renvoyée à cette identité qui me semblait pas du tout me caractériser. Moi, la fille d'un Bulgare et d'une Canadienne, là-bas, tout le monde me dit, c'est incroyable, t'es vraiment tellement la parfaite petite Française. Donc ça, c'était un
peu... Et ça
peu
change le... quoi pour vous ? C'est-à-dire que c'est une nouvelle pièce, oui, bien sûr, une nouvelle pièce du puzzle de votre identité, c'est ça ? Tout à coup, on se sent plus assemblée ou plus complète ou... Ça
ouais,
fait quoi ?
En tout cas, ça donne un peu, ça ancre quelque chose de la manière dont les autres vous perçoivent, d'une identité. Je pense que je suis quelqu'un que j'aime assez à 20 ans. Je suis passionnée de musique, d'art. Je passe ma vie à essayer de penser le monde. Je vais voir des expos et en même temps, je prends des cours d'histoire où je m'intéresse à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans la vie de témoins encore vivants à l'époque. Enfin, c'est une année qui est très riche comme ça de toutes parts, en apprenant aussi le russe, en me faisant des amis grecs, polonaises, en traversant toute l'Europe de l'Est avec mes nouveaux copains Erasmus. Donc c'est une année foisonnante. Je découvre aussi beaucoup le cinéma à l'époque parce que je passe mon temps à aller à tout ce qui est proposé dans cette ville d'Europe centrale. Donc j'ai l'impression que c'est un moment où tout semble possible.
Le jour, vous faites du russe et de l'histoire. Le soir, vous foncez au théâtre, à l'opéra. Vous partagez votre appartement avec un groupe de filles et vous vivez en meute joyeuse. Ensemble, vous riez, vous draguez, vous dansez aussi beaucoup. La valse, évidemment. Et puis parfois, sur un bon morshiba. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day, we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Morshiba, Rome wasn't built in a day. Vous êtes où, là, à entendre cette chanson, Léa Todorov? Elle vous transporte où, avec qui, comment?
Ah bah toujours vraiment à cette année viennoise, dans cette complicité avec mes colocatrices européennes, où on cuisinait, mangeait, refaisait le monde, voyageait à travers le pays et les pays. C'est la chanson de mes 20 ans.
Notre balade En Marche, c'est avec vous qu'on a fait ce soir, Léa Todorov, et avec La Nouvelle Femme, votre film, film aussi intime que politique, où vous questionnez la maternité, le genre, l'enfance, le handicap, vous, nous, tout ça à la fois. Et avec en régie, à la technique, Julien Chabassu, Anaïs Reynard à la réalisation, Ophélie Vivier, chargée de programmation. Vous êtes sur France Inter, bienvenue si vous nous rejoignez.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Raval Jamisri, chant polyphonique géorgien. Qu'est-ce que vient donc faire la Géorgie dans votre histoire, Léa Todorov?
C'est le lieu où j'ai réalisé mon premier documentaire.
Ouais.
Je suis partie à 22 ans avec d'autres étudiantes de Sciences Po, passer un mois là-bas pour faire un film qui racontait l'histoire de plusieurs générations dans leur lien à l'histoire récente, puisque la Géorgie, à ce moment-là, venait de vivre la Révolution des Roses, mais quelques années auparavant, une guerre civile précédée de la chute du communisme. Donc, il y avait eu comme ça des grands remous dans l'histoire récente de ce pays. Et je voulais explorer comment chaque génération percevait cette histoire et pouvait se l'approprier, la raconter.
Vous n'aviez jamais songé à faire du documentaire avant. Qu'est-ce que celui-là provoque comme effet en vous?
Bah, c'est décisif parce que c'est le moment où je décide que je ferai jamais autre chose que du cinéma. Donc c'est un moment qui marque une vraie rupture avec les études que j'avais faites. J'étais à Sciences Po à ce moment-là et puis où tout d'un coup j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui va pouvoir m'intéresser toute ma vie.
Vous décidez donc de vous réorienter, vous rentrez en stage dans une boîte de production de documentaires contre la vie de votre père, c'est ça?
Mon père trouvait que j'étais pas compétente pour faire du documentaire. Et donc, parce qu'il y avait d'autres gens qui savaient mieux le faire que moi.
D'accord.
Et ça avait été son unique argument.
D'accord.
D'une conversation dont je me rappelle encore. Voilà, presque 20 ans plus tard. Et je pense qu'il était inquiet que je rentre pas dans la fonction publique comme lui. C'est un fonctionnaire et il avait été extrêmement rassuré, je crois, le jour où il avait eu son entrée au CNRS, de savoir que tous les mois, il toucherait un salaire. Okay. Et il trouvait que c'était important qu'on soit fonctionnaire.
Donc vous l'avez gentiment envoyé bouler. Cette bifurcation ressemble quand même un peu à une émancipation. D'autant que l'amour s'en mêle. On est en 2008, vous avez 26 ans et vous faites une très jolie rencontre, Léa. If you catch me at the border, I got visas in my neck. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my neck. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Qu'est-ce qu'on entend là?
Paper Planes de Mia.
Ouais.
C'était effectivement le hit des soirées 2008,
ouais.
2009, qui est le moment où, dans un festival de films documentaires, je rencontre un réalisateur, lui aussi à ce moment-là, plutôt de documentaire, avec qui je commence une histoire qui dure pourtant pas très longtemps, mais qui pour moi est décisive, parce que alors que je sortais d'études de Sciences Po et que j'étais coincée aussi dans un rapport à l'art ancré dans la vision, je pense, de mes parents et de mon père en particulier, où la modernité me paraissait très décevante, je suis propulsée dans une bande voilà très joyeuse de réalisateurs et d'artistes qui se sont encore jeunes et se cherchent, mais que j'intègre avec voracité. Et on va voir tous les soirs des rétrospectives à Beaubourg, on visite des expos, on refait le monde et je découvre voilà plein de réalisateurs que aux côtés desquels j'étais complètement passée à côté, et de réalisatrices. Mais c'est vrai que c'est une ouverture qui reste jusqu'aujourd'hui très fondatrice.
Et vous vous ouvrez à ce monde-là, il s'ouvre à vous, et puis il y aura un film documentaire, et puis un deuxième, un autre réalisateur dans votre vie, et puis quelques-uns, je crois que vous avez un tropisme réalisateur. Quelques années plus tard, en 2015, vous voilà sous votre chaîne dans le Berry, vous vous mariez avec celui qui sera le père de Sophia. Quel souvenir gardez-vous de ce jour-là?
Du jour 2017.
Du mariage. 2017, pardon.
2017, 3 juin, c'était une date qu'on avait décidée avec mon père lorsqu'il était déjà hospitalisé. Et donc, à partir de là, je devais respecter la parole échangée avec quelqu'un qui n'était plus avec nous à ce moment-là. Donc, c'était un moment qui était chargé d'émotions très mélangées et extrêmement fortes parce que c'était mon mariage. J'en étais forcément très, très heureuse. J'étais accompagnée de mes amis les plus chers qui avaient organisé la cérémonie. Et donc, je trouvais ça merveilleux, la manière dont on avait fait ça. En même temps, j'étais encore plongée dans mon deuil et le chêne était justement la métonymie de mon père, lui qui aimait les figures de style, je lui en ressors une. Et j'étais enceinte de ma propre fille, donc ça faisait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et en étant juin, en septembre naîtra votre fille, en février est mort votre père. Voilà ce qu'on appelle une année émotionnellement chargée. Tout a commencé en réalité en 2014. Votre père déclare une maladie neurodégénérative. Vos parents se sont séparés un an plus tôt. Votre mère n'est plus à ses côtés. Donc, que diriez-vous de votre place, de votre rôle à ce moment-là auprès de lui?
Je me retrouve en première ligne de la maladie et ce qui est intéressant, je trouve, avec ça, c'est que en vrai pour moi, c'est que en même temps, j'avais le sentiment que ça avait toujours été ma place que j'aurais dû avoir effectivement, parce que je me sentais si proche de mon père que en vrai j'étais aussi contente de pouvoir être à ses côtés pendant toutes ces années et de pouvoir jouer ce rôle
qui est clairement un rôle d'aidante, hein, c'est-à-dire que vous avez mis en place autour de lui.
Ouais.
Un système de soins avec une kiné, c'est ça, une
kiné,
ergothérapeute,
ergo, orthophoniste, prof de yoga et une étudiante qui dormait là, des infirmières qui venaient tous les matins. Donc oui, je
et
mets
tout
en
à
place
coup, le point de bascule. Vous êtes celle qui s'occupe de celui qui s'est si bien occupé de vous. C'est vertigineux, ça.
Complètement, d'autant plus qu'on le sait, dans la vieillesse se rejouent des moments de l'enfance, des moments où je devais l'aider à manger, donc on est vraiment exactement dans les gestes qu'il avait dû faire avec moi pas mal d'années auparavant, donc il avait du mal à tenir, il fallait vraiment le soutenir comme ça physiquement, en même temps c'est pas un corps d'enfant, donc c'est déchirant de voir quelqu'un qui a été comme ça son socle voilà vaciller.
Qu'est-ce qu'on entend là?
On entend Sonia Vider-Atherton, la violoncelliste, aussi amie de mon père, qui joue Little Girl Blue de Nina Simone.
Votre père va passer le dernier mois de sa vie à l'hôpital avec vous chaque jour à son chevet. Dans vos souvenirs, cette période d'hôpital, elle a quelle couleur, elle a quel goût, elle a quelle saveur?
J'avais vraiment le sentiment qu'on était dans dans les limbes. Voilà, c'était un moment de limbe. On était vraiment dans les limbes, dans un service à la Pitié-Salpêtrière, extrêmement accueillant, extrêmement calme, avec des grandes baies vitrées, des gens très très bienveillants, très attentifs à tout le monde et aux énergies qui circulaient dans la pièce autour de mon père. Donc c'était à la fois extrêmement triste et en même temps très beau.
Vous êtes enceinte de 2 mois quand votre père s'en va. 2 mois plus tard, échographie du 2e trimestre, le bébé est tout petit. On s'inquiète, on fait des examens complémentaires, ce qu'on peut faire en tout cas. Comme tout va à peu près bien, la grossesse se poursuit. Sophia naît et assez vite, l'équipe médicale, comme vous, sentez que quelque chose ne va pas. Elle va rester à l'hôpital en observation et à la 6 semaines, quand tombe le diagnostic, elle est atteinte d'un syndrome génétique rare qui, globalement, affecte sa croissance et son développement. Bien évidemment, là non plus, vous n'avez pas quitté l'hôpital.
My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean.
Rythmé par le bruit du scope, ce qu'on entend, c'est cette chanson que vous lui chantiez à votre petite fille.
C'était une des chansons de marin que ma mère m'avait apprise et qui me venait quand je la tenais remplie de tubes et de fils contre moi.
Quand vous la tenez contre vous, qu'est-ce que vous ressentez ?
Elle a 3 semaines quand je comprends que ça va être un chemin différent. Et que je la prends contre moi, et l'infirmière qui a été la seule suffisamment courageuse pour confirmer ce que j'avais compris un peu toute seule, à savoir qu'on n'allait pas suivre un parcours classique qui n'aurait pas de réparation de ce qui était en train d'advenir. Je la sens grimper sur moi, comme se propulser, vous savez, ces réflexes de nourrisson. Et c'était comme si je lui avais dit ce jour-là que j'acceptais de l'accompagner dans ce parcours-là et qu'elle m'avait dit, je serai là.
Qu'est-ce que vous vous dites quand le verdict tombe, au moment où le diagnostic est prononcé ?
Je me dis qu'on n'aura pas l'occasion de jouer aux Jeux Olympiques, mais qu'on gagnera les Jeux Paralympiques.
Et ça, très concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il faut déjouer la pesanteur du système de prise en charge du handicap en France pour la toute petite enfance, à savoir comprendre en très peu de temps, grâce à l'incroyable réseau formé aussi par les parents sur les réseaux internet, les pages internet, etc., que, en fait, la seule chose qui va permettre à ma fille de se développer, c'est une prise en charge intensive. Et à 3 mois, j'organise autour d'elle 7 séances de prise en charge par semaine, ce qui est beaucoup pour un enfant aussi petit, et en même temps permet chaque jour de la faire progresser, avancer et de lui offrir la possibilité d'acquérir les étapes du développement et de l'autonomie. Et ça, j'irai pas jusqu'à dire contre l'avis médical, mais en tout cas absolument pas soutenu par une grande partie du corps médical.
Qu'est-ce qu'on vous dit de l'avenir de votre petite fille quand elle naît ?
En fait, on ne me dit pas grand-chose. On nous laisse sans mots. On a des médecins qui passent dans la salle et qui disent, en regardant un encéphalogramme un peu trop plat, pas mal. Mais on n'arrive pas à nous donner les mots justement du courage. Et on n'arrive pas à nous accompagner dans le diagnostic de la différence. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, je suis tellement en colère et en même temps tellement mobilisée que je me mets à fouiller Internet, à lire sur sa maladie, sur les prises en charge, sur l'enfance différente, avec une telle intensité que quand on arrive au moment où eux ont enfin les résultats biochimiques confirmant le diagnostic, j'en sais plus qu'eux sur la maladie.
Et le simple mot, la notion même de différence, ça, vous la vivez comment ? Le fait d'être hors des clous, et vous avez été catapulté hors des clous tout de suite, ça, vous le vivez comment ?
Sincèrement, je le vis vraiment comme un échec. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de partager à travers aussi le personnage de Lily.
Elle le dit, Lily.
D'Allongy, j'avais pas réussi ça.
Leïla Bekti, elle dit, j'avais pas réussi ça.
À faire un beau bébé.
Ouais.
Et je pense que ça venait aussi clôturer cette période de ma vie où justement je m'étais occupée de mon père malade, j'arrivais plus à travailler parce que j'étais complètement aspirée par ça. Et cet enfant, je le vivais comme une forme de renaissance. Et en fait, l'enfant, ça allait pas non plus. Donc j'avais l'impression de n'arriver à rien. Et donc je le prends très personnellement. D'ailleurs, au début, je suis persuadée que c'est mon deuil qui cause la maladie, enfin en tout cas les difficultés de ma fille. Et en même temps, je suis aussi tout de suite très combative. Mais cette différence, je sais pas quoi en penser. Je manque terriblement de représentation. Je crois que la seule chose à laquelle je peux me représenter, c'est les héros de cette série Heroes, qui étaient tous des gens modifiés génétiquement. Mmh. Enfin, en tout cas, une différence génétique qui leur donnait des pouvoirs. Et en fait, maladie génétique, ça voulait rien dire pour moi, à part que peut-être qu'on allait avoir des super pouvoirs.
6 ans plus tard, Sophia lit, Sophia rit, Sophia court après les pigeons et parle parfois toute seule dans la rue, comme vous. Petite fille, entre-temps, le combat, vous l'avez transformé, la douleur, vous l'avez sublimé. Et c'est un film, La Nouvelle Femme, qui est née.
Y'all change, baby. But daddy packing a lot.
You got it. And I need it. Been looking for you a long time. Been looking for you. Oh, it ain't on my mind.
You must be tired of being alone. Your man is gone and he ain't never coming home. You know as well as I do that life must go on. Don't worry about what people say, girl.
Robert Finlay, You Got It and I Need It. Comme tous les samedis, notre programmation musicale est signée Djoubaka. Vous en retrouverez toutes les références sur le site de Radio France à la page de l'émission.
En marge. Sur France Inter.
C'est l'une des musiques du film qu'on entend là, Mel Bonis, Miocherie, la toute petite Sandor, film que vous dédiez à Sophia, pour toi, grâce à toi, écrivez-vous. Quel effet a eu votre petite fille sur vous ?
Bah, je pense que elle m'a permis de justement sortir de la norme et mobiliser des forces que je ne savais pas que j'avais en moi pour l'aider justement. Pour mettre en place ce qu'il fallait pour sa prise en charge, pour accumuler très vite beaucoup de connaissances sur le développement des enfants. Donc j'ai l'impression qu'elle m'avait sorti finalement de la torpeur dans laquelle m'avait plongé aussi la maladie de mon père. C'était très étrange d'accompagner comme ça coup sur coup quelqu'un vers la mort et en même temps d'essayer ensuite de porter quelqu'un vers la vie. Et donc j'ai l'impression que elle m'a sauvée de quelque chose.
Et quel effet le film a eu sur vous deux ? Et sur vos relations peut-être à toutes les deux ?
C'est la possibilité de transformer ce qui était au départ quelque chose comme un accident de vie, ou en tout cas un événement comme ça, comme une rupture existentielle, où je sors voilà bouleversée de l'hôpital jour après jour, en larmes dans la rue. Et puis maintenant, c'est une expérience partagée avec des dizaines et dizaines de personnes, dont une trentaine d'enfants aussi neuroatypiques et porteurs de handicap moteur, qui se voient sur grand écran, magnifique, dans les rôles qu'on a préparés ensemble. Donc j'ai l'impression que ça a été comme vraiment un chemin de reconstruction et de réconciliation totalement. Mais je pense que aussi, Sophia, en grandissant, elle est devenue, par son impertinence et son incapacité géniale à voir les normes sociales, à les soutenir, voilà, une personne que j'admire en fait en permanence, dans sa joie, dans sa manière de s'adresser aux inconnus, d'avoir envie d'aller faire des câlins à tous les chiens dans la rue. Enfin, c'est toujours surprenant d'être avec elle.
C'est ce film, La Nouvelle Femme, que vous laisserez derrière vous, Léa Todorov, cette trace que vous laisserez de vous, accompagnée par cette musique de Gaspard Claus, Une Foule. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot
de Gaspard
et de cette musique?
Gaspard Claus, c'est un violoncelliste ami avec qui je connais depuis très très longtemps, qui avait d'ailleurs eu la gentillesse de jouer à notre mariage aussi du violoncelle et qui est venu jouer en live avec les enfants dans ce qui est aujourd'hui la dernière scène du film, le carnaval. Et sa présence combinée à celle de tous les enfants du film et de ma fille lors de ce jour de tournage, c'était un peu la quintessence de ce qu'on a vécu dans cette aventure. Et voilà, on était tous bouleversés. Et la musique de Gaspard, je la trouve voilà, profondément belle, très inspirante. Donc voilà, c'était un cadeau qu'il m'a fait.
Quel objet emporteriez-vous avec vous à tout jamais, Léa Todorov? Ce film, bien sûr, mais si vous aviez un objet qui vous raconte, qui vous définit, ce serait quoi?
J'ai amené avec moi.
Ouais,
je peux
vous
aller
l'avez
chercher.
Là, bien sûr, ouais. Allez-y, un sac. Petit, mais bourré à craquer, comme le sont souvent nos sacs à main, bien sûr. Et dans lequel on trouve
un carnet,
ouais,
que m'ont fait mes amies pour mes 40 ans. Dans lesquels elles ont chacune choisi des images, des textes, des recettes de cuisine, des poèmes... qui nous ressemble, qui raconte les moments qu'on a partagés ensemble. Donc là, on voit par exemple justement une image de la chorégraphe Georgia Ives avec laquelle j'ai travaillé, qui regarde le combo avec la script Jasmine Trinca et moi, morte de rire sur notre tournage. Un poème de Mary Oliver avec une photo de mon amie Clémence, poésie, une dégustation de glace. Mais voilà, on peut remonter comme ça dans le temps, dans
40 ans de vie,
40
en quelques instantanés.
Et beaucoup d'amis.
C'est ce que vous disiez, des amis pour la vie. En marge, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment, Léa Todorov. La Nouvelle Femme est actuellement en salle. Courez voir ce film. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.